BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Votre intimité prend l'air jusqu'à 18h. Votre intimité patrimoniale, bien sûr, on va mettre à nu les placements, leurs dessous, pour vous aider à choisir ceux qui répondent le mieux à vos besoins. Bienvenue à tous, on va avancer au rythme des marchés qui progressent encore aujourd'hui, décidément. Notre CAC est à 7092, plus 0,7%, on a même touché tout à l'heure, aux alentours de 15h20, on l'a vécu en direct, un nouveau plus haut de l'année. Bon, nouveau plus haut de janvier, hein, nouveau plus haut depuis le 1er janvier. À 7116 points, sur l'indice CAC 40, le rallye haussier semble vouloir perdurer, et aux États-Unis une hausse aussi aujourd'hui, plus 0,1% le S&P, le Nasdaq aussi gagne 0,5%. Pourtant, les taux repartent un peu à la hausse aux États-Unis et en Europe, et les actions résistent grâce sans doute à certaines publications. On voit Tesla aujourd'hui qui progresse de 10%, ce titre Tesla après sa publication. On va y revenir dans un instant. À l'inverse, IBM qui nous annonce pourtant la meilleure croissance de son chiffre d'affaires en 10 ans. IBM recule sur des prévisions jugées encore trop floues pour la suite, moins 4% en l'occurrence en ce moment. Ce titre IBM, on va bien sûr en parler avec nos experts. Et puis les indicateurs américains du jour. Alors là, vraiment, toujours pas de net ralentissement. On voit sur le marché de l'emploi encore une bonne surprise. On pensait le nombre de nouveaux inscrits au chômage en hausse. Et bien finalement, non, il recule. On a une nouvelle baisse du nombre de nouveaux inscrits au chômage sur la semaine écoulée. Leur nombre tombe même à un plus bas depuis avril dernier. 186 000 nouveaux inscrits au chômage. C'est inférieur évidemment aux attentes. Ça montre cette résilience toujours du marché de l'emploi. Les commandes de biens durables, elles, progressent deux fois plus qu'attendu. Alors il faut pondérer ce chiffre parce que la constitution des stocks publics l'explique en grande partie, mais quand même, ce chiffre des commandes de biens durables, deux fois supérieur aux attentes du marché. Là encore, c'est un signe de résilience de l'économie. Et puis un autre signe, le PIB américain du quatrième trimestre, il a été publié tout à l'heure. Eh bien, on va le détailler tout de suite d'ailleurs avec Faïza Younzi qui nous rejoint en direct pour parcourir l'ensemble de l'actu du jour, en démarrant donc par la croissance américaine meilleure qu'attendue.
BFM Business, l'info éco.
Et en effet, cette croissance américaine fait mieux que prévu au quatrième trimestre avec 2,9% de hausse du PIB en rythme annualisé au quatrième trimestre. Grâce à la solidité de la consommation des ménages sur l'année 2022, l'activité progresse de 2,1%, mais un ralentissement est désormais attendu sous l'effet du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine. Toujours aux États-Unis, American Airlines confirme la reprise de la demande pour le trafic aérien. La compagnie prévoit une forte hausse de ses bénéfices pour cette année 2023 avec la reprise des voyages. Pour son quatrième trimestre, ses revenus ont bondi de 17%. Son bénéfice avoisine les 830 millions de dollars. En Europe, les dividendes devraient battre des records cette année. Les sociétés cotées pourraient verser 387 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, un chiffre historique. Mais leur progression reste faible pour la deuxième année consécutive. Encore un géant de la tech qui annonce un plan social massif. Cette fois-ci, c'est SAP qui va supprimer 3000 emplois dans le monde, soit 2,5% de ses effectifs. Le groupe allemand veut engager une restructuration dès cette année et se focaliser davantage sur son activité cloud. Eramet veut extraire du lithium en Alsace en partenariat avec Électricité de Strasbourg. Le groupe minier étudie la possibilité de produire du lithium de sources géothermales d'ici la fin de la décennie. Eramet envisage d'en produire 10 000 tonnes par an, ce qui permettrait de fabriquer environ 250 000 batteries électriques. Coup de théâtre chez Toyota qui change de patron à partir du 1er avril prochain. Koji Sato va devenir le PDG du premier constructeur mondial après en avoir été le directeur opérationnel. Il va remplacer Akio Toyoda, le petit-fils du fondateur qui était à la tête du groupe depuis 2009. Lui va prendre la présidence du conseil d'administration. La contestation contre la réforme des retraites a repris dès aujourd'hui dans le secteur pétrolier et les centrales EDF. Un mouvement très suivi au sein des raffineries de Total Energy. La CGT recense 100% de grévistes dans le Nord, 80% en Normandie. Du côté d'EDF, la mobilisation a entraîné à la mi-journée une perte de puissance disponible équivalente à celle d'un réacteur nucléaire. Et les catastrophes naturelles n'ont jamais coûté aussi cher en France depuis quasiment un quart de siècle. Leur coût s'élève à 10 milliards d'euros selon les assureurs en 2022, pire année depuis 1999, notamment à cause des dégâts causés par les tempêtes. Les phénomènes climatiques extrêmes ont été plus intenses et nettement plus nombreux.
BFM Business, BFM Bourse, le club.
Merci Faïza, vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée pour continuer de prendre le pouls de l'actualité économique. Et nos experts du club, nos coéquipiers aussi nous rejoignent pour voir ce que les marchés ont dans le ventre, quel potentiel pour la suite. Bertrand Puif, gérant action pour Fidélité Internationale. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Et Étienne de Marsac. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Responsable de la gestion Absolute Return pour Sunny Asset Management. Bienvenue. Alors les indicateurs américains sont la plupart d'entre eux aujourd'hui à nouveau bien meilleurs qu'attendu. Les taux obligataires remontent un tout petit peu du coup. Mais les actions aussi, cette fois, les actions ne souffrent pas de la remontée des taux obligataires. Non, on progresse en Europe, on progresse bien. Et aux États-Unis aussi, on a un Nasdaq en ce moment en progression de 0,4%. On a plein de raisons d'être optimiste, Bertrand.
Alors pas tant que ça, mais revenons d'abord sur la hausse.
Effectivement. Je fais exprès de vous poser la question parce que vous m'avez indiqué en préparant cette émission que vous étiez au contraire très alarmé par les niveaux de marché, vous allez nous l'expliquer.
Tout à fait. Alors il y a une partie de la hausse déjà qui s'explique par des éléments techniques. On sait qu'il y a beaucoup de rachats de short, notamment sur les valeurs de croissance et en particulier sur les valeurs technologiques américaines. Donc il y a une partie de cette hausse qui est technique. C'est difficile de savoir si c'est la moitié, un tiers, mais c'est une partie quand même qui n'est pas négligeable. Alors pourquoi nous on a une vision un peu plus pessimiste? C'est parce que, si vous voulez, le scénario qui reste notre scénario, qui est un scénario de récession chez Fidelity, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est de dire que grâce à ce scénario-là, on aurait pu avoir donc une inflexion sur les chiffres de l'emploi qui aurait fait basculer la Fed et, dans une moindre mesure, un peu plus tard, la BCE, dans une politique moins hawkish. Et ça, ça aurait été vraiment le signal d'un rebond soutenable et de long terme du marché. Peut-être même le début d'un nouveau bull market ou des voilà.
Si les indicateurs américains
s'intègrent à une récession, attention. Et puis évidemment, donc ça veut dire quand même deux trimestres consécutifs de contraction. Et puis derrière, au deuxième semestre de l'année, on aurait pu imaginer, dans un contexte où les banques centrales assouplissent leur vision sur les taux, eh bien de commencer à reconstruire effectivement une hausse beaucoup plus saine. Sur le long terme. La hausse actuelle nous apparaît pas vraiment saine. Encore une fois, il y a des éléments techniques. Et le fait que, aujourd'hui, on ait ces éléments macroéconomiques qui ne vont pas dans le sens de cette récession, qui vont plutôt dans le sens d'une accélération de l'inflation. Parce que ce qui va se passer dans 15 jours, dans 3 semaines, si on continue à accumuler ces bonnes nouvelles, entre guillemets, eh bien, c'est que le marché va arrêter de monter. Parce qu'il va se mettre à nouveau à se focaliser sur les problématiques inflationnistes. Je rappelle que la Chine, ce qui est même pas donc l'objet de notre discussion sur les data américaines, mais la Chine, sans que les États-Unis aient ses meilleures données économiques, la Chine cette année, et c'est le consensus de marché, va être à plus 5% de croissance économique. Parce qu'il y a ce rattrapage grâce à l'arrêt de la politique zéro Covid. Et donc ça va déjà avoir un impact inflationniste important au niveau mondial. Mais si en plus les États-Unis et peut-être même l'Europe ne sont pas dans cette récession, eh bien alors, on va avoir une accélération de l'inflation comme on n'a jamais vu. C'est-à-dire que là, quand on nous dit, et je vois que le consensus me dit, il pense que d'ici 18 mois, on va revenir à 3% d'inflation, et puis on va se mettre même certains d'eux, et ce sera plus un problème, on n'en parle plus de l'inflation. Je rappelle qu'on est à 7-8%, et que peut-être que nous, notre scénario, s'il y avait eu la récession, ce serait qu'on se soit stabilisé autour de 4, et que si effectivement il n'y a pas cette récession, on va se stabiliser à 6. Et 6, si on veut avoir 2% de taux d'intérêt réel, ça vous donne un peu une idée de où peuvent monter les taux américains. Et donc là, on va avoir des banques centrales qui vont revenir avec un biais extrêmement hawkish si les data continuent comme ça. Alors là, pour le coup, bon, on sait notamment la BCE, à un moment donné, s'était un petit peu emballée sur certaines données économiques dans l'autre sens. Donc là, on sait qu'ils jouent un petit peu, ils se mettent un petit peu en retrait, ils attendent de voir. Encore une fois, voilà, on va voir si ces données-là, elles sont isolées ou s'il y a un vrai trend. Qui fait que les banques centrales vont devoir se refocaliser sur l'inflation, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés.
Bon, voilà, des indicateurs bien trop positifs encore en ce moment aux États-Unis. On a vu donc les commandes de biens durables, les inscriptions hebdomadaires au chômage, et puis le PIB américain aussi supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Est-ce que vous partagez du coup cette méfiance, ce pessimisme même de Bertrand à l'instant? Attention, si les indicateurs restent aussi costauds, et même si on n'arrive pas à atteindre la récession, ça devient un objectif maintenant la récession, oui, l'inflation nous surprendra et on atteindra, nous disiez-vous Bertrand, des niveaux d'inflation qui vont surprendre tout le monde et donc des politiques monétaires qui vont durablement refroidir pour le coup les investisseurs. Est-ce que vous achetez ce scénario et ce pessimisme ? Étienne.
Alors, malheureusement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Malheureusement, parce que du coup, le débat va pas forcément être aussi animé que si on était d'avis contraire. Néanmoins, ce qu'on peut dire quand même, c'est Réjouissons-nous de cette remontée des actifs risqués depuis le début de l'année, donc plus 10% sur le CAC 40, plus 7 ou 8 peut-être sur les actions américaines. Ça fait quand même un moment qu'on n'avait pas eu un tel début d'année assez atomique et qui peut nourrir encore de belles perspectives.
En Europe, c'est le meilleur début d'année de l'histoire.
Exactement. Donc réjouissons-nous d'autant plus que, en effet, alors on peut prendre les bons chiffres macro comme une mauvaise nouvelle, mais peut-être qu'en première analyse, c'est d'abord une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les économies sont résilientes, moins fragiles que prévu, résistent mieux à la remontée des taux d'intérêt et au choc de 400 points de base de remontée aux États-Unis ou 250 en Europe, ainsi que de hausse de taux d'une violence et d'une vitesse telle qu'il n'avait jamais eu lieu depuis 1970. Donc peut-être qu'en première lecture, c'est une bonne nouvelle qui s'appuie sur des chiffres qui sont consistants. Le GDP donc le PIB du quatrième trimestre aux États-Unis tourne à une fois et demie la vitesse long terme fixée par la Fed pour l'économie américaine. Donc la vitesse de long terme, c'est 1,8. Donc là, on tourne à 3% ou 2,9. On est à une fois et demie plus rapide que ce que ça ne devrait être le cas sur le long terme. Donc il y a des raisons légitimes de se réjouir. Après, est-ce que le marché, lui, monte sur ses bonnes idées ou c'est sur bonnes nouvelles, ces bonnes nouvelles? Et ça, c'est pas sûr. Il me semble que essentiellement, la remontée du risque, la remontée du prix ou la baisse du prix du risque, la remontée des valorisations et du prix des marchés actions repose essentiellement sur la baisse des taux qui s'est produite entre le mois d'octobre et aujourd'hui. Le taux d'intérêt aux US tourne à 3,5, quelque chose comme ça. Donc on reste sur des niveaux de taux qui sont assez bas, qui sont bien dégonflés et qui ont nourri ce retour de l'appétit pour le risque.
Oui, parce qu'on a à la fois les indicateurs meilleurs qu'attendus et la détente des taux obligataires. Donc pour les marchés, c'est le beurre et l'argent du beurre là.
Donc la question est de savoir si on retourne dans cet univers un petit peu de boucle d'or, donc Goldilocks, dont on entend parler, qui à mes yeux est plus du wishful thinking. Et donc la réponse est plutôt non. Pourquoi? Et ça a été très bien dit, parce que les marchés sont séquentiels et sont réflectifs. C'est-à-dire que la réflexivité, c'est quoi? C'est la baisse des conditions financières entre le mois d'octobre et aujourd'hui, la contraction des spreads sur le crédit, la baisse des taux d'intérêt, la baisse des primes de risque sur les taux mortgage américains, la remontée des prix des actions, tout ça fait baisser les conditions financières qui se retrouvent au même niveau que janvier 2022, à une époque où les taux d'intérêt étaient à zéro. Donc 400 BP plus haut, les marchés finalement sont aussi chers qu'ils ne l'étaient, et ce cycle de hausse de taux finalement a été éradiqué par un optimisme vraisemblablement un peu trop poussé de ce début d'année. Et la réflexivité, c'est ça, c'est on est en train de créer finalement un sentiment positif qui peut lui-même motiver une remontée des taux directeurs dans l'année, un retour du consommateur américain, une relance du cycle économique à un moment où quand même on sait que l'inflation n'est pas un sujet totalement maîtrisé. Et je crois que 2023 va nous voir, et là je suis vraiment complètement d'accord, et c'est assez rare, donc ça mérite d'être souligné, il faudra continuer cette discussion en dehors de l'émission, mais je pense que en milieu d'année, on va avoir un reversal, un renversement de tout ce trend de début d'année, c'est-à-dire le dollar américain va se rapprécier, les taux vont remonter, et les actifs risqués vont devoir rebaisser, parce que c'est le souhait des banquiers centraux. Une banque centrale, comment elle agit sur l'économie réelle?
Donc il faut acheter maintenant.
Oui, alors dépêchez-vous d'acheter.
Ça va encore monter. Mais vous dites jusqu'au milieu de l'année.
Si vous aimez le risque, parce qu'à tout moment, quand même, à partir de maintenant, les choses peuvent se retourner. Et je serais beaucoup plus, pour répondre à votre question, beaucoup plus vendeur aujourd'hui qu'acheteur sur ces niveaux.
Même si un certain nombre d'acteurs qui avaient désinvesti des marchés actions quand même en 2022, on se souvient, on avait accumulé, enchaîné plus de 40 semaines de décollecte sur les marchés actions européens. Il y a encore sans doute pas mal de liquidités prêtes à s'investir dans le marché, et notamment dans les marchés européens. La valorisation des marchés européens, même s'ils remontent fort depuis le début de l'année, cette valorisation reste historiquement en retard par rapport à celle des marchés américains, et plus encore que d'habitude, malgré le rebond du début de l'année. Est-ce que de ce point de vue, donc, quand on regarde juste les valorisations, quand on regarde aussi les publications des entreprises qui, pour l'instant, alors
Alors, en Europe, ça démarre à peine. Pour l'instant, c'est pas complètement la cata non plus. Est-ce qu'on peut se dire, bah oui, la valorisation des marchés européens, même s'ils ont bondi très très vite depuis le début de l'année, cette valorisation n'est pas non plus absurde et on n'est pas non plus en train d'entrer dans des excès ni dans une logique de bulle.
Bertrand. Oui, alors sur le marché européen, effectivement, on est à 13 fois. Ça se compare avec les US qui sont à 17 fois. Dans un marché, effectivement, topiche, on peut aller chercher, ces 13 fois peuvent se transformer en 15 fois, hein, pour aller regarder quand on regarde des fourchettes historiques. Donc, sur les multiples, on peut effectivement voir de l'expansion. La problématique qu'on a, et on peut rebondir sur les publications de Tesla et d'autres sociétés tech, c'est que, au travers de ces publications, le consensus des analystes révise à la baisse ses attentes pour cette année. Donc, le multiple, il monte déjà. Donc ça, c'est déjà... voilà. Donc ceux qui disent on peut aller chercher un multiple plus élevé, attention, mécaniquement déjà, il va monter parce qu'on révise à la baisse. Donc ça, c'est très important. Et en Europe, attention aussi, parce que le dollar a quand même eu une variation assez forte depuis 2 mois.
À la baisse.
À la baisse, exactement. Et donc là, là encore, beaucoup de sociétés européennes et d'analystes qui regardent les sociétés européennes vont devoir modifier leur modèle. Et là, je pense pas que ça va jouer en la faveur des sociétés. Donc, bon, certes, c'est pas cher. Après, vous avez d'autres zones au niveau mondial qui sont pas chères. Le Japon est pas cher historiquement, à 12 fois. Le UK, alors là on revient en Europe, alors hors Europe continentale, on est à 10 fois. Voilà. Mais encore une fois, là le marché américain entre 17 et 18 fois. Donc, et c'est plutôt un haut de fourchette pour le marché américain. Donc effectivement, il y a cette idée que les flux peuvent se réallouer vers l'Europe. Maintenant, il y a une problématique qu'on a sur l'Europe continentale, qui est un peu plus structurel, hein, qui fait que où est-ce qu'on met la prime de risque ? Pour moi, la prime de risque, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui, et c'est justifié, que la prime de risque historique sur le marché européen. Parce que on a une absence totale de stratégie européenne dans des secteurs clés comme l'énergie. On n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à donner une sécurité sur l'énergie et sur d'autres secteurs. Hein. On n'arrive pas. Donc à partir de là, je veux dire, aujourd'hui, une société qui a le choix entre investir en Europe ou aux États-Unis, qui utilise beaucoup d'énergie, il n'y a même pas de discussion. Même avec des aides, elle va refuser d'aller en Europe, compte tenu de tout ce qu'il y a eu. Alors je suis d'accord, il y a eu beaucoup plus en fait de verbiage que de réalité. Le problème, c'est que la perception, comme disait une grande maison anglo-saxonne qui commence par un G, perception is reality. Donc on a eu pendant 3-4 mois toutes ces discussions au niveau des gouvernements européens en disant « Oh là là, la pénurie arrive, il va falloir fermer des pans entiers de l'économie parce qu'on n'aura pas d'énergie ». Voilà, le mal est fait, c'est-à-dire la confiance.
Mais au contraire, on craignait le pire, on a réussi à faire en sorte qu'il n'arrive pas. Il n'y a pas de pénurie d'énergie finalement. On a réussi à s'adapter. Alors l'hiver doux,
vous avez jamais craint le pire. Aux États-Unis, les sociétés chimiques, hein, qui ont des gros actifs en Allemagne et aux États-Unis, elles sont en train de déplacer leurs actifs de l'Allemagne vers les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on a une visibilité. Jamais. On leur aurait dit, attention, il va y avoir un problème. Et même après, je suis d'accord en disant, bon, au final, il n'y a pas eu de problème. Mais on a souligné la possibilité qu'il puisse y en avoir un. Alors que sur les autres zones géographiques, il n'y en a pas.
Bon, on poursuit nos échanges dans un instant. L'Europe qui paye aussi, tout simplement, la géographie. Hein. La Russie est à côté. Bon, on va poursuivre nos échanges. Promis, juste après la pause, on va d'ailleurs rejoindre tout de suite, sans plus tarder, Sabrina Quagliozzi à New York. Elle nous y attend. Rebonjour Sabrina, pour prendre le pouls de ces marchés américains. Nombreuses publications sur lesquelles on va aussi revenir dans un instant avec nos experts. Sabrina, comment les marchés américains ou Wall Street arbitrent-ils ces publications et ces annonces d'entreprises aujourd'hui ?
C'est assez partagé. Vous avez IBM qui pèse sur l'indice Dow Jones, plus forte baisse de l'indice après un repli de 5% dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels qui étaient pourtant solides. IBM qui a fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé, qui voit ses ventes grimper de 6% sur l'ensemble de son exercice. On n'avait pas vu ça depuis plus de 10 ans. IBM qui annonce parallèlement des licenciements, 3900 employés concernés. Le titre IBM cède du terrain, donc depuis ce matin l'ouverture, moins 5% avec du coup un indice Dow Jones qui recule très très légèrement, moins 0,08%, 33 718 points. En revanche, on est en hausse du côté du S&P 500, plus 0,11%, encore du Nasdaq qui prend 0,48% après la publication de résultats, notamment de Tesla, qui a fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé, un chiffre d'affaires record, des résultats solides. Le groupe qui se montre même confiant pour 2023 estime qu'il est possible pour Tesla de produire 2 millions de véhicules cette année. Du côté côté des marges, bon, là, on est un plus bas en 5 trimestres. Il faut dire aussi qu'on a quand même, du côté de Tesla, baissé ses prix, le prix de certains des véhicules, et le groupe doit faire avec la hausse de ses coûts. Le titre Tesla, qui est en hausse, donc depuis ce matin, on prend un petit peu plus de 8% actuellement sur ce titre Tesla, qui est à 156,36 $. On notera également, parmi les autres publications du jour, Comcast, des résultats supérieurs aux attentes, un titre qui a changé, 40,07 $. Vous avez également dans le secteur aérien, American Airlines, qui a publié des résultats solides sur le trimestre écoulé, porté par une forte demande en fin d'année et la hausse du prix de ses billets. Le titre est en petite baisse actuellement, moins 0,5%, dans un marché donc qui est partagé. Le Dow Jones en repli de 0,24%. Le Nasdaq, le S&P 500 qui sont en progression avec une séance bien sûr qui est marquée par toute une série de publications de statistiques. Les chiffres de la croissance légèrement au-dessus des attentes sur le quatrième trimestre, mais en essoufflement par rapport au troisième trimestre. La composante inflation, en revanche, bien, elle est rassurante puisque ça va dans le bon sens. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont également été publiées ce matin. On est sur une baisse de 6 186 000. C'est un plus bas de ce côté-là depuis le mois d'avril dernier. Puis des commandes de biens durables, plus 5,6% sur le mois de décembre. Et une tendance donc partagée. Encore une fois, le Dow Jones, Guillaume, perd du terrain. Le Nasdaq, en revanche, est en tête avec un gain de 0,4%.
À tout à l'heure, Sabrina, vous nous accompagnez depuis New York tout au long de cette séance. Bien sûr, à tout à l'heure sur BFM Business, Bertrand Puif pour Fidélité Internationale et Étienne de Marsac pour Sony AM nous accompagnent, nos deux coéquipiers ce soir du club. Alors que Wall Street progresse, n'oubliez pas, n'oublions pas le CAC, les marchés européens. On est aussi en hausse ici en Europe. Oui, le CAC gagne encore 0,7% aujourd'hui, 7096 points. L'un et l'autre plutôt très méfiant face à la hausse des marchés depuis le 1er janvier. Parce que les indicateurs tiennent toujours trop. Parce que l'économie tient trop. La dynamique économique aux États-Unis et peut-être aussi ici en Europe reste trop active, si bien que l'inflation pourrait tenir, durer plus longtemps qu'attendu. Mmh. Enfin, on n'est pas forcément obligé de tomber en récession pour voir l'inflation continuer de ralentir. On pourrait imaginer qu'on évite la récession, et c'est ce que nous indiquent les différentes données macroéconomiques, tout en voyant l'inflation continuer de ralentir. Il faut forcément passer par la case récession pour voir les banques centrales aller se rapprocher de leurs objectifs. Il faudra cette récession ou on pourra y parvenir sans récession, d'après vous, Étienne?
Oui, donc ça, c'est le scénario du soft lending qui, malheureusement, ne s'appuie pas sur les faits. C'est-à-dire qu'aucune banque centrale n'a réussi à freiner une économie jusqu'au niveau, en s'arrêtant pile au niveau de croissance potentielle durablement. Donc déjà, ça, il semble qu'on ne sache pas faire. Donc vraisemblablement, il n'y a pas de raison pour que ce soit différent cette année, d'autant plus que, encore une fois, le cycle de hausse est très violent.
Il n'y a pas un contexte technologique particulier, démographique particulier, qui crée une tension peut-être structurelle sur le marché de l'emploi, qui entretient la dynamique de ce marché de l'emploi? C'est pas la grande différence par rapport au précédent resserrement monétaire?
Oui, non, mais vous avez raison. Comparaison n'est pas raison. Et effectivement, on peut trouver des spécificités qui viennent expliquer la bonne tenue des marchés de l'emploi qui ne sont pas uniquement un phénomène américain, mais également un phénomène pays développé, hein, donc plus vaste que ça. Mais vous touchez du doigt quand même le sujet qui est la nature de l'inflation. C'est-à-dire que si on pense que la désinflation, c'est simplement celle amenée par les prix d'énergie et la fluidification des chaînes d'approvisionnement, pourquoi pas, on pourrait dire mission accomplie. Malheureusement, c'est pas l'inflation qui compte, et celle qui compte, c'est celle qui est résiliente et qui infuse dans les économie au travers des salaires, et on n'a jamais vu des salaires en baisse dans un marché au plein emploi, comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc il est probable que si on atterrit sur cette zone impossible des 3-4% par exemple aux États-Unis, il faudra resserrer les taux davantage pour revenir à la cible d'inflation d'avant, puisque qui dit marché de l'emploi solide dit négociation salariale élevée, sachant que l'histoire, et vous avez notamment un papier de la BIS, donc la Banque Internationale de Settlement, l'histoire démontre que l'inflation également, elle suit des régimes. C'est-à-dire qu'en dessous du niveau de 4%, elle a beaucoup de difficultés à irradier dans les différents secteurs de l'économie ou dans les différents agents. Au-dessus de 4, ce qui est le cas aujourd'hui, on a énormément de mal à la faire passer en dessous. Et donc vraisemblablement, les banques centrales vont devoir aller chercher un peu de restrictions ou plus de restrictions dans les conditions financières. La deuxième raison qui me fait être méfiant, moi j'accompagne volontiers la hausse, mais avec beaucoup de méfiance, accompagner la hausse, pourquoi ? Parce qu'on sait que si on est dans un bear market rally, les hausses peuvent vous emmener beaucoup plus haut que la raison, et c'est pas tellement une bonne idée de se mettre en face, notamment au regard des flux. Vous en avez parlé en début d'émission, les mutual funds, donc l'équivalent des sociétés de gestion aux États-Unis, sont structurellement sous-investis sur les marchés actions de 50%. Donc il reste encore 50% éventuellement de d'inflow pouvant alimenter cette hausse. Et deuxièmement, et troisièmement, la raison pour laquelle je suis suspicieux, c'est que vous avez quand même une grande incohérence dans le pricing des différentes classes d'actifs. C'est-à-dire, soit vous êtes en rebond de l'activité et en fin de la récession et en redépart de l'expansion, auquel cas les taux d'intérêt n'ont rien à faire là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû rallier de 100 BP comme c'est le cas depuis le mois d'octobre de 2022. Ils devraient être beaucoup plus hauts. Donc soit on est en récession et les taux sont mal pricés, soit on est en expansion et les taux sont mal pricés, soit on est dans une poursuite de la récession sur la base de 2022, et dans ce cas-là les actions également sont mal pricées. Donc vous avez une grande incohérence. Soit vous jouez le retour du consommateur chinois dans l'économie mondiale, et donc là vous devez parler donc de retour de l'expansion, mais dans ces cas-là les taux d'intérêt ils doivent pas être là, et si les taux d'intérêt sont plus chers ainsi que le coût de l'argent, à la fin vous allez vous retrouver avec des multiples qui vont devoir corriger.
Bon, donc pour vous cette hausse c'est peut-être, attention, un bear market rally.
C'est ma conviction, un bear market rally.
Et vous disiez tout à l'heure, vous êtes plus prompt, là, aujourd'hui, sur les niveaux actuels, après une telle hausse, à vendre qu'à
alléger.
Alléger. La baisse de marché, si elle a lieu, elle doit être de combien pour vous, alors, du coup?
Oula, ça, c'est... Non, pas
cette question.
Non, je ne sais pas, parce qu'en fait, elle est conditionnelle à quel niveau démarre la baisse. C'est-à-dire que si on a encore rallié de 20%, vous voyez, c'est pas la même chose que 20% à partir d'aujourd'hui. Mais imaginons que le taux terminal de la Fed ne soit pas 5, mais 6, par exemple, 100 BP de plus. Ce qui me paraît assez certain, c'est que les price-earning ratios dont on a parlé tout à l'heure, notamment aux US, donc entre 17, 18 et puis 22 pour le Nasdaq, sont sur des niveaux qui sont ni chers ni pas chers et donc peuvent encore consolider.
Alors le niveau de la valorisation des marchés, les PE dont vous nous parlez, évidemment ils évolueront en fonction de ce que nous annoncent les entreprises, ce qu'elles délivrent, leurs publications qui commencent à véritablement accélérer en Europe. Alors ST Microelectronics est salué aujourd'hui, plus 7,5%. ST Microelectronics, c'est la plus forte hausse du CAC 40, toujours les semi-conducteurs, demande très très forte, prévision de marge assez exceptionnelle pour le premier trimestre chez ST Microelectronics. Les autres valeurs en hausse sur les publications Tesla gagnent quasiment 10% en ce moment. Voilà, qu'est-ce qui dans l'avalanche de publications du moment retient le plus votre attention? Est-ce que vous estimez qu'on est sur une saison de publication pour l'instant plutôt un peu décevante quand même, Bertrand?
Alors c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt en ligne sur le quatrième trimestre, sur les attentes. Par contre, c'est vrai que quand on lit encore une fois les perspectives qui sont données, alors ST Microelectronics est un contre-exemple, mais en général les perspectives qui sont données aujourd'hui par les sociétés sur l'année, ce qui est logique puisqu'ils ont peu de visibilité, font qu'on devrait avoir une révision à la baisse du consensus sur certains secteurs et en particulier sur la tech, objectivement. Tesla aujourd'hui monte sur des éléments techniques, rachat de short. Je rappelle que c'est un titre qui est à 40 fois les profits, que les profits par rapport aux attentes sont en train d'être révisés à la baisse puisque la stratégie a changé maintenant. On veut faire du mass market, donc on baisse drastiquement les prix, mais ça a effectivement un impact sur les earnings. 40 fois, BMW est à 4 fois. BMW d'ici 2025 fera la moitié de sa production seront des véhicules électriques. Voilà, si on met le même multiple sur la moitié de BMW, BMW est un strong buy. Donc voilà, juste pour dire qu'il y a en fait des secteurs, des pans de secteurs qui restent extrêmement peu chers. Et ST Microelectronics en est un exemple. Au sein des semi-conducteurs, c'était un des titres les plus faibles en termes de multiples. Et les écarts, notamment quand on regarde par rapport au SOX, donc par rapport à l'indice des semi-conducteurs US, on a sous-performance de ST a jamais été aussi forte historiquement. Donc c'est vrai qu'il y a un effet rattrapage sur des titres qui sont pas chers. Alors soit on a ce rattrapage technique sur des Tesla, et là attention, parce que ça c'est vraiment assez spéculatif. C'est plutôt une occasion effectivement de sortir. Après, il y a des titres moins chers. Donc, alors, on parlait des semi-conducteurs au sein de la tech, mais par exemple, aujourd'hui, l'énergie nous paraît être un secteur très intéressant, hein, parce que les prix du pétrole se maintiennent plutôt bien. Il y a également, donc, on voit des signaux qui viennent de l'Arabie Saoudite, comme quoi la baisse de production des champs, donc onshore, est en train de s'accélérer sur des niveaux qu'on n'a jamais vus historiquement. Et donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont en train d'investir massivement sur de l'offshore, donc sur leur côte. Mais tout ça pour dire que c'est challenging de maintenir la production de pétrole. Alors que, et ça il faut quand même l'avoir en tête, que nos auditeurs, nos spectateurs l'aient en tête, la consommation de pétrole augmente. C'est une vue purement européenne que de dire que ça va baisser parce qu'on a la transition énergétique. La transition énergétique, c'est européen. Les autres pays, en particulier les pays émergents, ont une intensité en pétrole qui ne fait qu'augmenter. Regardons l'Indonésie, par exemple. L'Indonésie, qui va être un acteur très important dans le futur, hein, d'un point de vue économique, leur consommation de pétrole par habitant est en train d'exploser. Et beaucoup de pays qui sont en développement sont dans le même cas de figure. Donc, là, on a une vraie demande qui va se tenir, même dans un cadre de récession. Donc elle ne va pas s'effondrer, la demande de pétrole, même dans un cadre de récession. Et par contre, l'offre va être sous une pression qu'on a rarement connue dans l'histoire. Et à $90 le baril, malheureusement, ce n'est pas vraiment pricé. Et on a effectivement ce niveau maximum qui va avoir un impact négatif sur l'économie que même les Saoudiens et l'OPEP ne veulent pas atteindre. Ce niveau, c'est plutôt 110, 115, peut-être 120. Donc déjà qu'à 90, nos sociétés pétrolières, et je parle même pas des services pétroliers, sont sur des niveaux de multiples historiquement bas. Alors imaginez si on met même pas 120, 100. Là, vous êtes sur des sociétés qui, ne serait-ce qu'en termes de dividendes, vont pouvoir payer 15% ou plus. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez...
Là, on couvre plus que l'inflation.
Après, c'est vrai que le pétrole, ça représente 6% de l'indice américain. Donc, c'est rien. C'est monté jusqu'à 20 il y a 10 ans, c'est 6. Donc, ces secteurs-là, ils sont très faibles aujourd'hui dans le poids des indices.
Donc, la value avant tout. Vous continuez de miser sur la value.
Ce que je veux dire, c'est que ça suffira pas à sauver les indices, malheureusement.
Oui, enfin,
ça peut suffire à sauver les perfs, ce qui est le plus important.
Plus les indices. Ouais. Oui, mais plus les indices européens que Wall Street, parce que les indices européens sont plus composés de value que Wall Street.
Tout à fait.
Wall Street.
On parlait du marché UK. Effectivement, le marché britannique est très value. Des financières, des matières premières, de l'énergie.
Dans quelques minutes, LVMH va publier. Ça vous attire le luxe ou c'est pas assez value à vos yeux? Non, mais voilà, c'est la réouverture chinoise quand même.
Effectivement. Alors, c'est vrai que le luxe, c'est compliqué parce que d'un point de vue, effectivement, ouverture chinoise, ce sont des vecteurs d'investissement intéressants en termes de rattrapage de toute cette consommation de luxe qui n'a pas pu être réalisée à cause de la politique Covid zéro. Maintenant, on peut pas dire qu'on soit vraiment sur un segment value. Clairement pas. Et après, c'est vrai que on a quand même eu des années fantastiques. Il y a un moment donné, il faut que le secteur y respire aussi en termes de valorisation. Encore une fois, boursièrement.
Mais je veux bien, mais la Chine est en train de rouvrir et tous les économistes nous disent attendez, la prévision d'une croissance cette année en Chine de 5%, elle sera dépassée.
La récession aux États-Unis en Europe, si vous voulez, c'est un effet de compensation. Je veux bien que les Chinois vont tellement bien consommer que même si nous on arrête de consommer du luxe, ce sera fantastique. Mais c'est quand même là encore très optimiste comme scénario.
L'ouverture de la Chine, c'est une narrative. C'est-à-dire que pour l'instant, elle se voit pas du tout dans les faits.
Exactement.
Ah bah c'est normal, ça vient juste de rouvrir là.
Oui, mais ce qui de toute façon va réouvrir, ce sont les secteurs qui pèsent très peu dans le PIB, c'est-à-dire que ce ne sont pas les secteurs du type construction ou infrastructure, et donc le potentiel d'impact de la réouverture de la Chine sur l'économie mondiale est très faible.
Même pour l'Europe, parce que l'Europe, l'Allemagne qui a beaucoup souffert du ralentissement chinois, pourquoi est-ce qu'une réaccélération chinoise ne ferait au contraire pas du bien à l'Allemagne et donc à la zone euro?
C'est une narrative. La Chine ne réaccélère pas. Les exportations se contractent à une vitesse de plus de 10% year over year, donc sur un an, et ne montrent aucun signe de stabilisation.
Parce qu'il y avait le Covid, ils ont rouvert il y a à peine 15 jours.
Oui, mais c'est pas magique.
Non, d'accord. Ouais. Bon, merci pour ce bain de pessimisme. Non. Peut-être réalisme, en tout cas. Voilà, ce regard distant, un peu de hauteur sur cette hausse incroyable des marchés depuis le début de l'année.
Les opportunités, encore une fois.
Ah bon, elles sont où?
Oui,
la value. Voilà. Bertrand Puif, Fidélité Internationale, Étienne de Marsac, Sony AM. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. Dans un instant, on va rejoindre Étienne Braque depuis la Tour Euronext pour vivre ensemble cette clôture sur BFM Business. Et juste après, on débriefera à nouveau cette séance. Et puis, bien sûr, la publication à suivre d'LVMH dans quelques minutes. Elle devrait tomber a priori avant 18h. On vous en parlera également. À tout de suite. La clôture sur les marchés, vous êtes bien sur BFM Business en direct. On va rejoindre depuis la Tour Euronext Étienne Braque. Étienne, on termine à nouveau dans le vert ce soir sur le CAC.
On termine dans le vert et à la porte des 7000 points. 7095 points pour l'indice parisien qui a touché en séance des plus hauts annuels. On est revenu sur les niveaux de février 2022 et on s'offre une nouvelle hausse, plus 0,7%. Si vous regardez le CAC 40 dividendes réinvestis, on a moins de 1% des records historiques. Et pour une fois, aujourd'hui, on a des marchés qui ont été portés par les publications d'entreprises. Ça y est, ça commence à accélérer dans l'ensemble, ça se passe très bien. Il suffit de regarder STM qui clôture quasiment sur les plus hauts du jour, plus 8% à 42,68 €. Ça se passe bien également pour le secteur du luxe. Tod's qui a publié ses résultats ce matin, un titre qui gagne 5% à Milan. Et avant LVMH, eh bien, vous avez tout le secteur qui est hyper bien orienté ce soir à la clôture, puisque vous avez Hermès qui a touché pour la première fois de son histoire les 1 700 €. Vous avez Kering qui gagne 2,5% ce soir à la clôture à 547 €. Et puis à l'inverse, un peu plus compliqué pour les spiritueux, avec Pernod Ricard qui clôture avec une baisse de 2,8%. C'est la plus forte baisse de l'indice dans le siège de Diageo, son concurrent à Londres, qui a déçu un petit peu, notamment en termes de croissance au quatrième trimestre dans la zone Amérique. Et puis hors CAC 40, c'est un peu plus compliqué pour Elior qui perd 14%. Là, on est dans le secteur de la restauration collective, avec le marché qui est un petit peu déçu, notamment en termes de renouvellement des contrats par rapport à l'inflation, parce que bien sûr, c'est le sujet du moment dans le secteur. Et puis à l'inverse, ça se passe très bien pour Sartorius Tedim, quasiment 30 milliards d'euros de capitalisation boursière, un titre qui gagne 7% après avoir revu ses objectifs à échéance 2025, et donc un titre qui clôture au-delà des 327 €. Et donc la Bourse de Paris qui clôture dans le vert ce soir, plus 0,7% au fixing, à la porte des 7100 points, 7095 points, le tout avec des volumes d'échanges qui reviennent un petit peu. Hein. En début de semaine, on était sous les 3 milliards. Ce soir, vous avez 3,3 milliards d'euros échangés dans le CAC 40.
Merci Étienne, et vous nous accompagnez bien sûr tout au long de cette soirée sur BFM Business. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions. Tout à l'heure, Amaury Tonquédec et son expert tenteront d'y répondre sur les réseaux sociaux de BFM Business et BFM Bourse. Ce sera après 18h. Et donc, pour envoyer vos questions, vous voyez apparaître régulièrement tout au long de l'après-midi ce QR code qu'il vous suffit de scanner ou flasher. Et en le scannant ou en le flashant, vous nous envoyez votre interrogation. Vous pouvez aussi nous adresser un mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et donc, rendez-vous tout à l'heure pour le débrief, notre expert qui tentera donc d'apporter ses réponses à vos interrogations sur nos réseaux sociaux après 18h.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
Ils viennent de nous rejoindre pour en effet tirer des leçons, des enseignements de cette nouvelle séance, vous apporter des clés pour agir sur vos portefeuilles. Aymeric Lang, Erasmus Gestion, bonsoir Aymeric.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, Pierre-Louis Vermeer également nous accompagne depuis Swiss Life Banque Privée. Bonsoir Pierre-Louis.
Bonsoir Guillaume.
Ravi également de vous retrouver Pierre-Louis. Alors on a touché en séance un nouveau plus haut de l'année, un nouveau plus haut depuis le 1er janvier sur le CAC 40 à 7116 points. On l'a vécu en direct d'ailleurs sur BFM Business aux alentours de 15h20. On termine en hausse proche des 7100, plus 0,7% en clôture, et la plus forte hausse, Aymeric, ST Microelectronics gagne plus de 8% en clôture. On est dans l'univers très porteur des semi-conducteurs, mais le marché a l'air quand même surpris par l'ampleur des résultats et surtout des prévisions d'ST Microelectronics ce soir.
C'est ça, il y a une bonne nouvelle sur à la fois les résultats et sur les objectifs du premier trimestre et de l'année. L'activité est tirée par la partie automobile qui est de plus en plus importante pour STMicro, et c'est assez intéressant selon nous. C'est un relais de croissance extrêmement important pour la société. Le point d'interrogation qu'il va falloir surveiller, c'est Apple, qui représente autour de 20% du chiffre d'affaires. Il semble y avoir un ralentissement du côté d'Apple. C'est selon nous un bon moment pour qu'il y ait un ralentissement du côté d'Apple, parce que justement les autres activités comme l'automobile vont extrêmement bien, donc la société va être capable de digérer une baisse éventuelle, mais c'est le point d'interrogation. En tout cas, les prises de commandes sont extrêmement bonnes, l'activité va bien également, et la valorisation reste selon nous raisonnable. On se voit les bénéfices, on en détient sur un fonds chez nous.
D'accord, donc valorisation encore attractive, même après la hausse ce soir de plus de 8% en clôture.
Là, on traite à un peu plus de 11 fois les bénéfices de l'année prochaine. Ça ne me paraît pas extrêmement élevé par rapport au rythme de croissance.
Et ça en fait un des acteurs des semi-conducteurs les moins chers encore sur le marché.
De très loin, quand on compare à d'autres acteurs, on est 30-40% en dessous en moyenne.
Pierre-Louis, est-ce que vous avez aussi envie d'acheter ST Microelectronics, ou est-ce que vous avez d'autres chouchous pour accompagner la montée en puissance des semi-conducteurs?
Écoutez, les principaux éléments, ils ont été énoncés. Hein. C'est vrai qu'on a une entreprise qui a publié des très bons résultats et qui a été très optimiste pour le début de l'année 2023. Donc c'est vrai que les chiffres sont quand même impressionnants. Mais on est quand même habitué avec STM. Ils surprennent assez positivement lors de leur publication. Malheureusement aujourd'hui on n'en a pas en portefeuille, mais on reste quand même positif sur ce dossier. On est sur ASML, nous, on s'est dit un peu plus tôt dans la semaine, et qui offre également un bon potentiel avec une guidance pour 2023 qui fait état d'une croissance attendue supérieure de 25%. Donc on est sur ASML, nous. On est positif sur le dossier.
Oui, oui. ASML, qui pour le coup est beaucoup plus gros en capitalisation boursière que STMicroelectronics, c'est la deuxième plus grosse capi européenne derrière LVMH. LVMH dont on attend la publication d'un instant à l'autre. Une autre valeur s'est distinguée ce soir. Et vous la suivez, Sartorius Tedim, plus 7%. Belle prouesse aussi en clôture. Bon, même question, est-ce qu'à plus 7, le titre garde encore du potentiel d'après vous, Aymeric?
Là, ce qui est un peu différent, c'est que autant on a eu une bonne surprise pour STM. Là, ce qui est un peu différent, c'est que la publication est en ligne, mais la hausse et la forte hausse vient surtout d'un rachat de shorts. C'était un des titres les plus shortés. Il y avait 7% de shorts des actions qui étaient shortées sur le titre. Donc le marché attendait une publication plus négative, en tout cas les investisseurs, mais les analystes avaient bien fait leur travail et avaient bien anticipé. Donc finalement, la publication ne va pas entraîner des révisions à la hausse des bénéfices, ni pour cette année, ni pour 2025. Il y a une révision à la hausse de la guidance 2025 qui avait déjà été anticipée par les analystes. Donc globalement, une publication de qualité, mais en ligne, il n'y a pas une énorme surprise là-dessus. Le point d'attention, c'est le rythme des prises de commandes qui est un peu décevant, qui est inférieur au rythme des ventes pour ce trimestre. Ça va sûrement être le cas également sur les prochains trimestres. Donc c'est le point d'attention. Le management s'est voulu rassurant sur le sujet. Mais là, pour le coup, on n'en détient pas. Le titre cote plus de 30 fois les bénéfices avec une croissance attendue de l'ordre de 6 à 7% par an. Donc c'est quand même assez élevé selon nous. Donc on n'en détient pas aujourd'hui.
Ça vous donne pas envie d'en acheter spécialement?
Non, mais c'est une entreprise de grande qualité. Ah oui. Elle est revenue sur des niveaux plus intéressants, mais pour nous, il faut aller encore un peu plus loin pour devenir particulièrement attractif.
En revanche, on essaie vraiment de se mettre au service de nos auditeurs et téléspectateurs chaque jour, leur apporter des idées s'ils veulent agir sur leur portefeuille. Il y a une valeur qui aujourd'hui a beaucoup souffert, tiens, contre la tendance, puis il y a une valeur qui ne nous avait pas habitués à ça. Vous voyez de qui je parle? SES Imagotag. Ce soir, moins 4,9%. Vous y voyez, Aymeric, un point d'entrée, en l'occurrence.
Elle a même touché moins 10 en séance. Alors, bon, SES Imagotag, pour bien positionner l'activité, c'est le leader mondial des étiquettes électroniques. Quand vous allez en grande surface, il y a de plus en plus d'étiquettes qui sont électroniques. C'est un gros avantage pour les grandes surfaces, c'est qu'elles peuvent rapidement mettre en place des opérations promotionnelles et surtout rapidement changer les prix.
Et quand les prix montent en temps d'inflation, par exemple, on voit les prix monter sur les étiquettes électroniques d'SES Imagotag.
Plutôt que d'avoir quelqu'un qui doit passer en dessous de chaque référence pour changer les prix. Donc il y a un gros intérêt de la part des clients. C'est un marché qui est complètement sous-pénétré. Il y a 5% des étiquettes qui sont comme ça électroniques. La société anticipe 30% d'ici 2027. Donc il y a un gros potentiel de croissance. Et surtout pour le groupe, il faut le voir comme un cheval de Troie. Parce que la société, quand elle vend ses étiquettes électroniques, elle met le pied dans la porte. Et derrière, elle peut aller proposer des services à forte valeur ajoutée où le gros de la marge se fait. Donc il y a un effet très sain d'augmentation des ventes et amélioration des marges. Donc il y a un potentiel de croissance très important. On atteint un doublement des bénéfices par action chaque année sur les 3 prochaines années pour vous donner un potentiel de croissance. Et on pense que la baisse d'aujourd'hui, après une publication somme toute en ligne et en point d'entrée qui nous paraît intéressant, on en détient sur le fonds Small Cap et on a un objectif de cours aujourd'hui qui est supérieur à 170 €. Donc ça laisse un potentiel de hausse extrêmement élevé pour ce titre-là.
Donc encore à l'achat sur SES Imagotag, d'autant plus après cette baisse aujourd'hui, 112 €. Ça y est, LVMH a publié en direct, on va vous en faire part, de ces chiffres d'LVMH. Pierre-Louis, on vous laisse quelques secondes pour essayer d'analyser et cogiter sur ces chiffres qui sont en train de tomber. Ce chiffre d'affaires d'LVMH 2022 en hausse, il passe de 64 milliards à 79,2 milliards d'euros, le chiffre d'affaires d'LVMH. Les ventes du géant du luxe progressent au quatrième trimestre de 9%, ce qui est supérieur aux attentes. Les consommateurs en Europe et aux États-Unis ont manifestement peu regarder à la dépense pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année. LVMH qui, pour la suite, nous dit être confiant dans sa capacité à poursuivre sur le même rythme de croissance. Voilà ce qui ressort tout juste à l'instant. Et puis le résultat net part du groupe aussi. On peut en dire un tout petit mot sur l'exercice 2022. Ce résultat net part passe de 12 à 14,1 milliards d'euros sur un an. Pierre-Louis, vous voyez les chiffres en train de s'afficher, vous aussi en direct là sur vos écrans. Est-ce qu'on peut tenter une première analyse analyse des résultats qui sont en train de tomber d'LVMH, première capitalisation du marché parisien, qui fera donc demain varier, qui impactera la tendance aussi sur le CAC 40. Est-ce que cette publication vous semble encore meilleure que ce que le marché avait pu anticiper?
Bah écoutez, une fois de plus, on a une entreprise qui vole de record en record et qui surprend à chaque fois. Donc si je dois faire le lien avec la dernière publication qu'on avait eue en fin d'année, nous de notre côté, c'est assez consensuel, on n'était pas très inquiet sur cette fin d'année 2022. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à un niveau de croissance un peu plus modeste que lors des précédents trimestres de l'an dernier. Bon, c'était dû hein, à l'effet Chine hein, qui a fortement souffert des restrictions qu'on a eues successivement. Et puis sur la fin d'année, on pouvait craindre un ralentissement de la consommation sur le territoire américain. Bon, c'est des chiffres qui font un peu mentir ce soir. Et puis sur l'Europe, on s'attendait à une bonne tenue. Donc ces trois éléments font qu'aujourd'hui, on a une publication de qualité. Et donc c'est des résultats qui sont toujours tirés par la division mode et maroquinerie, qui est la principale division contributrice aux résultats du groupe. Et donc cette division, elle semble quand même très bien armée, hein, même en période de ralentissement économique, hein, pour preuve les chiffres de ce soir. Et on voit que le groupe fait bien de miser sur ses marques fortes, hein, avec Louis Vuitton, Dior, Fendi ou encore Céline, qui continuent de bénéficier d'une forte demande. Et puis en plus, la diversification du portefeuille d'activité du groupe nous rend très confiants pour la suite des événements. Mmh. Et puis en dehors des données financières, c'est vrai qu'il y a quand même eu ces bonnes nouvelles il y a quelques semaines sur la Chine. Donc on attend aussi des commentaires de la part du management, voir comment ils intègrent ça au guidance pour 2023. Ce sera peut-être un peu timide sur cette année, mais très porteur en 2024. Mmh. Donc oui, nous, on aime beaucoup LVMH, hein, et on n'a pas tort, hein, au vu des résultats.
C'est vrai.
On aime beaucoup LVMH.
Résultat record, en effet, des ventes de 79 milliards d'euros pour LVMH. Record, hein, pour 2022, 79 milliards d'euros, un bénéfice net de 14 milliards d'euros, grâce, nous dit LVMH, à la forte hausse de l'activité en Europe et aux États-Unis. Alors que la Chine, elle, était grippée, on verra en effet ce que nous dit LVMH de son activité en Chine. Pour la suite, Bernard Arnault, le PDG s'exprime dans un communiqué. Il dit « Nous abordons l'année 2023 avec confiance, mais compte tenu des incertitudes actuelles, nous resterons vigilants et comptons renforcer encore notre avance sur le marché mondial du luxe. » Aymeric.
C'est... Bon, il est rare, il fait souvent preuve de d'une certaine prudence et tombe rarement dans une euphorie démesurée. Donc je pense qu'il faut aussi voir ce commentaire sous ce prisme. Je suis assez confiant également sur le titre, lié aussi avec la Chine qui a été mentionnée, le relais de croissance chinois qui va prendre la suite de l'Europe et des États-Unis. Et il n'y a pas de raison pour moi à aujourd'hui d'anticiper un ralentissement fort ni en Europe ni aux États-Unis. La croissance européenne risque d'être, enfin, pourrait être soutenue également par la reprise de la Chine. Donc finalement, c'est un cercle très vertueux qui peut se mettre en place, et on voit la croissance qu'ils arrivent à sortir alors même que le moteur chinois a été grippé sur le dernier trimestre. C'est très rassurant.
Bon, et donc ce record de vente qui augmente les ventes au quatrième trimestre de 9%, c'est supérieur aux attentes pour LVMH grâce à l'Europe, aux États-Unis, au Japon également. On y reviendra dans un instant. Guillaume Paul et Audrey Tcherkov, bien sûr, Good Evening Business, ils vont vous accompagner jusqu'à 20h pour continuer de décortiquer les annonces d'LVMH. Et puis demain, on verra comment le titre ouvre à l'ouverture, mais LVMH fait mieux qu'attendu. On verra comment le marché juge également les prévisions sur l'année 2023 et pour ce qui concerne le marché chinois, puisque LVMH est en train de continuer à communiquer et publier ses résultats. Tout ça est en cours. Merci messieurs d'avoir joué le jeu. En tout cas, Aymeric Lang avec nous pour Erasmus Gestion et Pierre-Louis Vermeer pour Swiss Life Banque Privée étaient nos deux experts. On vous rappelle le CAC 40 en belle hausse ce soir encore, plus 0,7%, 7095 points. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.